engagement sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J, il est 21h.
Radio J. Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
Radio J.
Radio J. Géopolitique, le mag.
Steve Nadjar.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio J pour ce nouveau numéro de Géopolitique le Mag, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité internationale. Un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque semaine en audio et en vidéo, notamment depuis notre page, notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Chaque semaine, dans cette émission, nous décryptons ensemble les enjeux géopolitiques et géostratégiques du moment autour d'experts des affaires internationales qui vous aideront, je l'espère, à mieux comprendre le monde et à forger votre opinion. Mon invité ce soir dans Géopolitique le Mag, Jean-François Colosimo, dans un nouveau livre intitulé Occident ennemi numéro 1, ce grand spécialiste de l'histoire des religions développe une réflexion puissante sur les ambitions des néo-empires que sont la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et la Turquie, des États dont l'obsession est d'abattre l'Occident. Une bataille qui se nourrit, vous le verrez, d'une quête de revanche, de réparation pour justifier les menaces et les prédations et où le religieux est un puissant carburant. Jean-François Colosimo est l'invité ce soir de Géopolitique. Le Mag sera avec nous dans quelques instants. Nous parlerons ensuite de la Turquie avec Léa Landman qui explorera les motivations de Recep Tayyip Erdogan dans ses récentes prises de décision dans le dossier israélo-palestinien. Ankara qui s'est notamment associé à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Géopolitique Le Mag est disponible en podcast sur radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, notamment sur Spotify et Deezer. Vous pouvez également la retrouver en vidéo sur nos chaînes Facebook, YouTube et X. Géopolitique Le Mag, épisode 65, ça démarre tout de suite.
Radio J.
Radio J. Géopolitique Le Mag.
Steve Nadjar. Radio J.
Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Vous êtes historien des religions, directeur des éditions du CERF et vous faites paraître chez Albin Michel un essai érudit consacré à un phénomène qui devrait dominer le 21e siècle, la volonté de revanche sur l'Occident qui anime les néo-empires que sont la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie et l'Inde. Le livre s'intitule « Occident ennemi mondial numéro 1 ». Jean-François Colosimo, cette haine porte-t-elle nécessairement en les germes de la guerre mondiale et généralisée ?
Pardon. Nous ne connaîtrons pas une troisième guerre mondiale comme nous avons connu une première guerre mondiale et une seconde guerre mondiale. C'est évident. En fait, nous sommes plutôt entrés dans la première guerre mondialisée ou la première forme de guerre de la mondialisation, c'est-à-dire une éruption constante de conflits sur l'ensemble des continents, y compris désormais le continent européen, on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine, des conflits qui durent, des conflits qui n'ont pas de fin, au sens où soit en fait ils s'éternisent, soit en fait d'un coup ils s'arrêtent, mais sans qu'il y ait de résolution diplomatique, sans qu'il y ait de cessez-le-feu, d'armistice, de règlement de paix. Et en fait, nous sommes véritablement plongés dans cette espèce, je dirais, de dissémination du fait de la guerre. C'est un premier critère, je dirais, de transformation de ce qui nous arrive.
Sans que cela génère nécessairement par le système d'alliance des guerres du fait de la multiplication de ces crises-là, comme sur le modèle, par exemple, de la Première Guerre mondiale.
Non, voilà, je pense qu'on n'aura pas, si vous voulez... De blocs, comme on a eu d'ailleurs après 1945, un Est, un Ouest, un empire du bien, un empire du mal, et réciproquement, vice-versa, selon la manière dont on se plaçait. D'ailleurs, cet affrontement entre les deux blocs avait été complètement stérilisé par l'arme nucléaire, et ça avait été en fait une guerre perpétuelle, mais par délégation sur des théâtres annexes, en Asie, en Afrique, un peu partout, n'est-ce pas ? Non, on n'aura pas donc de confrontation de bloc à bloc. On aura en fait, je dirais, une situation de harcèlement permanent qui d'ailleurs implique pas simplement le fait de la guerre lui-même, mais d'autres formes de guerre, guerre économique, avec la question des routes de l'énergie, guerre évidemment dans le cyberespace, n'est-ce pas, avec la manipulation des opinions, mais aussi avec la possibilité de neutraliser véritablement les ressources, je dirais, fonctionnelles d'un pays.
Et avec également une diversité d'acteurs, pas seulement des États ou des néo-empires, mais
non, mais vous savez, regardez aujourd'hui l'Iran, qui évidemment a développé à travers son arc chiite une déstabilisation complète du Moyen-Orient, puisqu'il n'y a à peu près que aujourd'hui, à part l'Iran et Israël, il n'y a que des États faillis. C'est un peu, en quelque sorte, la mosaïque, je dirais, ottomane qui ressort sous la construction des États-nations. Et en fait, ce Moyen-Orient, il est aujourd'hui fondé sur une espèce de dyade, de couple, de tandem hallucinant, missiles et milices, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Bon. Mais cet Iran-là, eh bien, il est aujourd'hui aussi l'un des grands acteurs du marché international de la drogue, via le Hezbollah au Liban, qui est en fait le convoyeur aujourd'hui des cartels colombiens pour ce qui est de la cocaïne, et via aussi le régime de Bachar el-Assad, dont le frère est un des plus grands exportateurs de drogues chimiques, cette fois-ci. Et donc, vous voyez bien que vous avez d'un coup une alliance entre des États bellicistes, des groupes mafieux de crimes organisés et des groupes terroristes. Et que, en fait...
Qui tous profitent du désordre,
qui ont tous des intérêts convergents, ou un intérêt convergent qui s'appelle le chaos, en fait. Alors, la guerre, elle change pour toutes ces raisons. Elle change aussi pour une autre raison, c'est qu'elle change de nature. Vous voyez, depuis Clausewitz, le grand théoricien de la guerre, au XIXe siècle, la guerre, c'est une manière, en fait, de continuer la diplomatie par d'autres moyens, de manière à revenir à la diplomatie. Mais là, non, aujourd'hui, la guerre, c'est l'étalage de la force, de la barbarie et de la cruauté, c'est-à-dire de la terreur, n'est-ce pas ? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit lorsque Erdogan et Aliyev d'Azerbaïdjan parquent les Arméniens du Haut-Karabakh pour les affamer, que ce soit lorsque Poutine libère des serial killers, des criminels de sang avérés pour les projeter sur le front contre les populations ukrainiennes, y compris les populations civiles, ou lorsque le 7 octobre, le Hamas déclenche son opération, je dirais que la ligne de continuité entre toutes ces démonstrations de force, c'est la barbarie, c'est la cruauté.
Que des digues morales presque ont sauté, peut-être à partir du moment où vous notez d'ailleurs de vous relever deux points au moment charnière, on y reviendra peut-être, le Covid-19 et le retrait américain d'Afghanistan.
Oui,
Si on s'intéresse à la deuxième, à ces deuxièmes dates, c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de...
À partir de ce moment-là, disons que la débâcle américaine d'Afghanistan... c'est quand même 21 ans de présence, 3500 milliards de dollars dépensés, un nombre de victimes militaires et de victimes civiles difficiles à évaluer. Et tout ça parce que c'était l'engagement, le premier engagement de la guerre globale contre la terreur. Et c'était aussi cette volonté d'affirmer que l'Amérique était là présente pour apporter la liberté, la prospérité. Et d'un coup, un départ totalement bâclé, là aussi, encore une fois, pas de règlement diplomatique, et on abandonne le pays aux talibans, dont on connaît parfaitement le programme, n'est-ce pas ? 20 ans de guerre. Alors, en plus, si vous comptez le fait que les soviétiques sont entrés en Afghanistan en 1978-79, etc., vous vous rendez compte qu'un Afghan qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années, il n'a connu que la guerre. Vous voyez ? C'est ça, la réalité de notre monde.
Et les trafics de drogue, par ailleurs. Pour boucler la boucle.
Et bien sûr, avec cette idée, évidemment, sachant que l'Afghanistan, dans la représentation géopolitique classique, c'est le cœur de l'Eurasie, du grand continent eurasiatique, n'est-ce pas, avec les grandes îles autour, l'Amérique, le Japon, enfin les Indes, mais c'est le centre du monde. Alors l'Eurasie, c'est le centre du monde, et l'Afghanistan, c'est le cœur. D'où ce qu'on appelait le grand jeu, cet affrontement perpétuel entre Russes et Anglais au XIXe siècle, puisque la Grande-Bretagne, c'était le principal empire maritime, mais voilà qu'il était concurrencé par un empire qui, lui, progressait de manière terrestre, n'est-ce pas ? L'empire russe, qui lui seul pouvait rivaliser, l'Afghanistan a été ce lieu de combat, et puis ce lieu de combat, il est devenu ensuite celui des Soviétiques et des Américains. Ben, aujourd'hui, c'est un lieu de combat déserté. N'est-ce pas?
Et il faut relire Kipling. Cette guerre, Jean-François Colosimo, l'Ouest a longtemps préféré ne pas la voir émerger, ne pas l'envisager même. Qu'avaient de commun les thèses en vogue dans les années 90, post-guerre froide, de fin de l'histoire, de fin de la guerre même, ou de mondialisation heureuse?
Oui, la mondialisation heureuse, bien sûr. Vous voyez, la mondialisation heureuse, elle a laissé place à la mondialisation calamiteuse, même pas malheureuse, que calamiteuse.
Même si la pauvreté a reculé dans le monde.
Oui, mais ça, ce sont des indicateurs qui ne veulent rien dire, à mon sens. C'est exactement une espèce de propension qu'on a à faire, je dirais, si vous me permettez, de la géopolitique un peu matérialiste, tu vois. Alors, le crime recule, le SMIC avance, etc. Mais les peuples ne vivent pas comme ça. Les peuples vivent de symbolique. Je veux dire par là que par exemple, le religieux, c'est le véritable, c'est ça un peu le fond de mon livre, c'est d'analyser comment ces néo-empires utilisent la religion. Le religieux, c'est le carburant extrême, je veux dire, c'est une drogue dure. C'est la drogue dure, en fait, des régimes totalitaires, le religieux. Si on conçoit que même un régime peut se dire athée et fabriquer de la religion, comme ça a été le cas pour l'Union soviétique. N'est-ce pas, avec les portraits de Lénine enfant, de Staline père des peuples.
C'est le meilleur carburant pour mobiliser les peuples et pour créer aussi une forme d'union sacrée face à l'ennemi.
Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces empires qu'on décrit, à peu près au XVIIIe siècle, ils enregistrent ce choc de cette Europe qui est sortie de ce petit Finistère, au fond, de l'Eurasie, qui est notre continent, n'est-ce pas, via l'Atlantique. Et puis, ils affrontent cette suprématie européenne qui est fondée sur la raison, la technique. Il leur faut rivaliser. Il faut entrer en compétition. Alors, ils veulent entrer en compétition. Et ça va se traduire par des programmes de modernisation, je dirais, plus surréalistes les uns que les autres, dans le sens où ces régimes autocratiques, que ça soit l'Empire tsariste, l'Empire ottoman, l'Empire Qing, l'Empire moghol recouvert par l'Empire britannique, ou que ce soit évidemment l'Empire perse, l'Empire des Qadjars, voilà qu'ils mettent en question tout, qu'ils suppriment en quelque sorte leur passé, leurs racines, leur identité. Sauf qu'il y a une seule chose qu'ils ne mettent jamais en cause, c'est l'autocratie. C'est l'autocratie. Alors évidemment, à fin 19e, ça, c'est la faillite. Qu'est-ce qui arrive au 20e? Ben, c'est le va-tout. Le va-tout, c'est que trois empires disparaissent. L'Empire ottoman devient la Turquie, l'Empire perse devient l'Iran, l'Empire britannico-mongol devient l'Inde. Trois versions, en fait, on va adopter le nationalisme. Puis deux autres empires disparaissent, l'Empire tsariste, l'URSS, et puis l'Empire Qing, et ça donne la République de Chine populaire, et là c'est le communisme. Nationalisme-communisme, c'est les deux volontés d'occidentalisation extrême. Et là on y va, et là on massacre, je dirais, tout ce qui est de l'ordre du passé, puisqu'on veut construire un homme nouveau, un homme européanisé, occidentalisé. La révolution culturelle chinoise, c'est l'exemple de ça. Et là, catastrophe, deuxième catastrophe, parce que quand on promet le ciel sur terre et qu'il ne vient pas, ben, c'est un grand désespoir. Et là arrivent les successeurs. Poutine, Xi Jinping, Erdogan, Modi, Khamenei, et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent, nos prédécesseurs ont eu raison sur le totalitarisme, l'autoritarisme, ils ont eu raison de créer une société verrouillée, policière, de faire des camps partout, c'est ça la grande rationalité occidentale, dans leur esprit. Mais ils ont eu un tort, c'est de se priver de la religion, parce que la religion c'est totalement inclusif. Vous faites vivre tout un pays selon les mêmes rites et les mêmes croyances. C'est totalement exclusif. Votre religion exclut les autres, et c'est une force de mobilisation, parce que beaucoup mieux, au fond, que la République avec un grand R, que l'Empire avec un grand E, que la Nation avec un grand N, que le communisme avec un grand C, ça donne sens en fait, au sacrifice suprême. Ça donne, en fait, l'immortalité. C'est la promesse de l'au-delà dont personne n'est jamais revenu.
Et je vous cite, uniformiser les siens, excommunier les autres, ce qui peut être un peu le credo ou le slogan de ces régimes. Dans un livre qui vient de paraître, Ghassan Salamé explore justement cette notion autour des années 90, ouais, de fin de la guerre, cette croyance en un effacement, ouais, de Mars, ouais, et voire un triomphe de Vénus.
Exact.
C'est aussi une lecture que vous partagez, François Colosimo.
Oui, enfin, je crois que ça a été beaucoup plus simple. Ça nous concerne.
Et un espoir, finalement. Nouvelle ère de l'humanité.
C'était le dernier, en fait, illusion de la religion, de l'humanité, du progrès instauré par les Lumières. Savoir que l'homme, maître de son destin, allait finalement créer le paradis ici-bas. Et qu'on allait pouvoir diviniser l'histoire, que l'histoire allait devenir un processus qui allait aller vers toujours plus de bien.
C'était la dernière étape du mythe de l'homme-dieu.
Voilà. En fait, les mondialistes de la mondialisation heureuse, n'est-ce pas, ont complètement sous-estimé un phénomène qui est que la mondialisation, c'est effectivement centripète. Ça ramène au centre toutes les formes d'humanité pour faire vivre toutes les formes d'humanité avec la même nourriture, la même musique, le même habillement, la même plateforme de séries télévisées, etc. Ou les mêmes, en tout cas. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, d'ailleurs, en 50 ans, si vous voulez, tous les centres-villes des grandes capitales se ressemblent étrangement avec les mêmes marques, les magasins, etc.
Et ça crée l'uniformisation ?
L'uniformisation. Mais plus vous créez d'uniformisation, plus à la périphérie, vous avez des identités rebelles qui ne peuvent pas rentrer dans ce schéma ou qui ne veulent pas y rentrer ou qui prennent l'opportunité de ce schéma pour essayer d'asseoir leur pouvoir. Et qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont virulentes, elles sont à la périphérie. Elles veulent gagner le centre pour le détruire, n'est-ce pas ? Puisque ce centre...
Et on n'est pas dans le narcissisme des petites différences, pour citer Freud. On est dans quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ancré.
Comme ces identités se rebellent contre la dissolution de l'identité que propose la mondialisation, selon elles, c'est vrai qu'il y a un aspect d'usure des identités, qu'est-ce qu'elles font ? Elles forent pour trouver le maximum d'identité. Et quand vous forez, vous trouvez le religieux à la fin, parce qu'encore une fois, on vient de le décrire, il a tous les critères qu'il faut pour être véritablement ce moteur de la rébellion. N'est-ce pas ? Et donner sens absolu à la rébellion. Et donc, ce qu'on n'a pas compris, c'est que la mondialisation, c'est ça, c'est diastole, systole, c'est quand votre cœur, c'est contraction, n'est-ce pas ? Et en fait, extension. C'est les deux. Donc, la mondialisation, on s'en sortira pas. On va pas tous finir dans la béatitude du marché mondial en étant tous, buveurs de Coca-Cola et mangeurs de McDo. Parce que la mondialisation, c'est aussi Mac-Djihad.
Benjamin Barber.
Absolument.
Qui avait déjà vu ça dans les années 90. Vous avez publié, Jean-François Colosimo, en 2009, chez Fayard, un carnet de voyage intellectuel passionnant sur l'Iran. Il avait pour titre Le paradoxe persan. 2009, année où éclata la révolution verte contre le trucage de l'élection présidentielle par le régime pour favoriser la reconduction de l'ultra Mahmoud Ahmadinejad. Qu'est-ce qui a changé sur place en 15 ans?
L'âge des acteurs. Ils ont vieilli. Aujourd'hui, cette société iranienne, qui est une société millefeuille, où le pouvoir est distribué entre des clans qui ont tous des agendas particuliers, qui sont des agendas de puissance et de jouissance de la puissance. Aujourd'hui, donc, tous ces acteurs ont vieilli. Vous voyez, quand on parle de l'élimination de Soleimani, c'était un jeune homme lors de la guerre irakienne. Dans les années 80. Donc, vous avez en fait une révolution qui a créé deux classes, comme un peu d'ailleurs... À la Révolution française avait créé des classes nouvelles qui ensuite se sont en quelque sorte authentifiées sous l'Empire, n'est-ce pas ? Bon, deux classes, les passe-d'armes, les soldats, et puis les mollahs, les clercs. Ces deux classes qui ont enflé, aujourd'hui elles tiennent l'Iran, ces deux classes, particulièrement les passe-d'armes qui tiennent les casernes au centre des villes, ce qui explique le peu de capacité qu'ont les Iraniens de renverser le pouvoir. Et en fait, ces classes-là ne veulent rien rétrocéder de ce qu'elles ont gagné. Vous êtes dans une situation, en fait, de conservatisme proche de la sclérose.
C'est ça, la vérité. Elles profitent même des sanctions économiques.
Oui, elles profitent de tout. De toute façon, je veux dire, les sanctions, écoutez, les sanctions, ça ne s'est jamais appliqué qu'aux petites gens. Les notables n'ont jamais souffert des sanctions, ont toujours trouvé des moyens de les éviter, de les contourner, enfin, etc. Comment s'appelait-il? Il fut président, Rafsanjani, que j'avais interviewé.
Un des hommes les plus riches d'Iran, qui a été président.
Oui, et qui était aussi un sacré révolutionnaire, assez sanguinaire. Un personnage, je dirais, intéressant, justement. Parce
je crois qu'il avait l'exclusivité sur la vente des voitures de luxe, je crois, pendant une certaine période.
Oui, et puis il avait aussi. C'était le plus grand pistachier d'Iran. Bon, je ne vois pas que ça a marché. Et puis il avait aussi une ou deux compagnies d'aviation privées, dont une en Iran, mais une au Orient, etc. Donc, c'était un potentat, vous voyez, vous avez affaire à des potentats. Ces potentats-là, leur échéance la plus grave, c'est la mort de Khamenei. Ali Khamenei, l'actuel guide suprême, qui est d'ailleurs un azéri au passage, qu'on décrit comme aujourd'hui opiumane au dernier degré, parce que très malade.
Et près de 90 ans.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Est-ce qu'ils vont trouver un nouveau guide suprême? Le fils de Khamenei est candidat, mais là, ça devient dynastique. Est-ce qu'ils vont supprimer cette institution? Disons, on a fait le tour.
C'était un peu le rêve, d'ailleurs, d'Ahmadinejad.
Oui, bien sûr. Voilà, donc, ils sont effectivement très divisés. Maintenant, le problème de l'Iran depuis 1979... c'est que l'Iran pose la destruction d'Israël comme une condition, l'Iran islamique, hein, entendons-nous, parce que il y a au contraire dans la civilisation persane, je dirais, un égard du fait juif qui est très profond, et on peut pas diminuer ça, c'est pas un pays de tradition antisémite, l'Iran. Donc, de ce point de vue-là, le régime islamique se définit par la destruction d'Israël. Pourquoi? Parce que quand vous êtes persan et chiite, vous êtes doublement minoritaire. Si vous voulez le leadership sur le monde musulman, particulièrement sur votre monde immédiat, musulman arabo-sunnite, où on voit quand même comme ethniquement inassimilable et comme confessionnellement hérétique, donc vous en remettez une couche, d'autant plus que ça vous permet dans ce cas-là de créer un petit Satan qui serait... paraît-il, je dirais, l'émanation du grand Satan américain, le grand Satan américain étant le véritable ennemi. Donc ça permet de créer un ennemi local qui est quand même plus atteignable, non seulement géographiquement, mais aussi militairement en quelque sorte. Et en fait, cette guerre perpétuelle de l'Iran contre Israël est une des clés du régime actuel, un des constituants, vraiment une épine dorsale telle que si le régime venait à tomber, certainement même cette animosité tomberait d'elle-même, parce qu'il n'est pas sûr du tout qu'elle soit partagée par les Iraniens. C'est une véritable construction idéologique.
Petite parenthèse.
Qui a des effets évidemment délétères. Ça, je ne dis pas que ce soit qu'une construction idéologique, mais c'est purement une construction idéologique qui va à rebours en plus de l'histoire de la culture persane.
Toute petite parenthèse, comment est-ce que vous avez réagi, Jean-François Colosimo, au poste de soutien du guide suprême Khamenei en faveur des étudiants mobilisés pour Gaza et contre Israël dans les grandes écoles et grands campus, notamment en France et aux États-Unis?
Cet opportunisme est illimité. Je dirais que Khamenei malheureusement fait son job. Ce sont les étudiants qui manifestent cette façon-là, occupent les universités et osent des slogans qui sont parfaitement insensés, mais c'est non seulement insensé, mais quasiment sacrilège, n'est-ce pas? D'accuser Israël de commettre un génocide, de comparer les Israéliens à des nazis, on est dans une espèce de profanation, d'inversion du sens tel. Donc je dirais que Khamenei, c'est un détail dans tout ça,
parce qu'on parle beaucoup de guerre d'influence en s'intéressant à la Russie, mais est-ce que les Iraniens peuvent contribuer à cette guerre d'influence?
Il y a des relais du chiisme en France, du chiisme iranien, parce que le véritable chiisme, en plus, c'est pas celui de l'imam Khomeini. Mais ils sont pas si forts que cela. En revanche, on voit bien, enfin, vous voyez, une des grandes affaires qui a quand même occupé l'Iran, qui occupe l'Iran depuis les années 1980, c'est la persécution ouverte et constante de Salman Rushdie. Donc on voit que les Iraniens ont quand même là-dessus, par éducation, un sens assez fort du combat culturel. Dévoyé, condamnable. Mais examinons le phénomène, vous voyez. Je veux dire, l'affaire Rushdie, c'est eux. C'est l'imam Khomeini, n'est-ce pas? Donc on voit que l'actuel guide joue aussi à cette idée d'influence pour se présenter. Mais Xi Jinping, Poutine, Modi font la même chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire comme des héros de la liberté. Donc il y aurait un Occident qui serait liberticide et eux seraient des héros de la liberté. Et il y a chez nous des crétins, il faut les appeler pour ce qu'ils sont, n'est-ce pas, qui sont prêts à adhérer à cette vision.
Pour terminer sur l'Iran, cette ambition impériale islamiste se marie, vous l'expliquez dans Paradoxe Persan 2009, à une iranité dont vous écriviez qu'elle n'a jamais véritablement posé de limite à ses frontières.
Non, bien sûr, parce que, vous voyez, c'est une longue histoire. Vous avez fait, comme tous nos auditeurs, un peu à l'école, vous souvenez de quand même, et si vous en souvenez pas, vous avez vu le film 300, des Perses qui débarquent chez les Grecs, Sparte, les Thermopyles, n'est-ce pas? Il faut se souvenir que juste avant la conquête arabe de Jérusalem, les Perses ont conquis Jérusalem, tout au début du 7e siècle. C'était pas la première fois qu'ils débarquaient, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Empire Perse, c'est un empire qui a été, enfin, sous ses différents noms, Mèdes, Sassanides, enfin, etc., c'est la continuité de cet empire, ça a été, comme tous les empires, ne pas admettre de limites. Et ça a été, il y a des moments de l'histoire, un empire qui couvrait facilement jusqu'à la Méditerranée. Vous voyez, et jusqu'au Caucase.
Donc il y a des rêves de revanche, de réparation de l'histoire dans ces revendications territoriales iraniennes, chinoises ou indiennes.
On rêve, on se pince. C'est-à-dire que oui, il y a cette idée que... il faut retrouver les territoires perdus, mais ce sont les discours d'Erdogan, n'est-ce pas? Alors il dit Sarajevo, Damas, oui, on couvre tout l'ancien empire ottoman à son maximum de surface, et il dit notre cœur saigne parce que notre cœur est là-bas, il n'y a pas de frontière pour le cœur. Oui, il n'y a pas de frontière pour le cœur, il n'y a pas de frontière pour les armes, il n'y a pas de frontière pour l'influence, il n'y a pas de frontière pour la corruption, et il n'y a pas de frontière aussi pour la manipulation des opinions, comme on le voit aujourd'hui, dans les Balkans. Dans les Balkans, il y avait un islam traditionnel qui était Bektachi, c'était un islam soufi, un peu syncrétique, très ouvert politiquement et très ouvert culturellement. Mmh. Aujourd'hui, il est remplacé par l'islam turc d'Erdogan, c'est-à-dire l'islam d'État, grâce à la Diyanet. La Diyanet, c'est le principal organisme d'État en Turquie, c'est 120 000 fonctionnaires, 3 milliards d'euros de budget annuel pour garder l'islam d'État en Turquie et favoriser son extension partout, y compris donc dans les Balkans, mais y compris en Allemagne, bien sûr, où il y a une forte immigration turque, y compris à Strasbourg. Mmh. Donc, vous voyez bien qu'il y a des phénomènes de substitution, même quand il n'y a pas d'attaque militaire, il y a une volonté de pénétration et de déstabilisation des territoires. Tout ça parce que un jour, ils ont appartenu à... Enfin bon, les Balkans ont appartenu à l'Empire romain, voilà, et heureusement, même Madame Meloni ne pense pas les revendiquer.
Pour terminer, est-ce que ces empires, ces néo-empires, sont appelés nécessairement à s'opposer un jour ou l'autre?
Bien sûr. J'en fais le compte. Dans leur passé, ils ont eu parfois des dizaines de guerres entre l'Empire tsariste et l'Empire ottoman. C'est 12 guerres entre le 16e siècle et le début du 20e siècle, la fin du 19e. Quand ils n'ont pas eu de guerre, c'est qu'ils étaient stérilisés. L'Inde n'a pas connu beaucoup de guerres parce qu'elle était sous la coiffe britannique, n'est-ce pas? La Chine aussi a cherché à sa santé, mais les Russes arrivent en Chine dès le 18e siècle. Donc leurs antagonismes sont exactement très profonds. Aujourd'hui, ils sont alliés en nous désignant, nous, mais cette désignation ne marche pas, et cette désignation elle repose aussi sur une grosse ambiguïté, c'est qu'en fait, les États-Unis d'Amérique, qui sont censés assurer notre sécurité, ont une constitution politico-religieuse qui ressemble beaucoup à celle de ces empires. Et on le voit aujourd'hui, puisque l'Amérique, en plus, est en proie à une hésitation sur elle-même qui est fondamentale. On a cité la débâcle d'Afghanistan, mais avant, il y a eu quand même la profanation du Capitole par les Trumpistes. C'est un phénomène inouï dans la conscience de la religion civile américaine qui explique aussi la force militaire et diplomatique des États-Unis, cette religion civile américaine. C'est une espèce de brisure aussi importante que...
Et vous êtes inquiet pour terminer sur l'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis et sur...
Non, mais c'est l'une ou l'autre, les États-Unis sont pris dans un doute existentiel qui fait que nous devons désormais nous assumer tout seuls.
Nous,
les Européens, sous l'égide de la France, qui est la seule puissance nucléaire, la seule puissance qui a une armée complète, la seule puissance qui est présente sur toutes les mers, et qui a une tradition aussi d'accueil aux autres cultures, parce qu'il ne s'agit pas, comme le prétendent ces potentats qui veulent en fait la place de numéro un sur le podium, n'est-ce pas ? Ils veulent, voilà, et donc ils décrivent un Occident menteur, corrupteur, en déclin, décadent, etc. Tout ça, c'est de la représentation. Ils veulent...
Comme le Sud global est une représentation géopolitique.
Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, la Russie vient de changer. Elle parle de majorité mondiale parce que la Chine ou l'Inde, c'est quand même, sont plus propices à être le leader du Sud global que la Russie avec ses neiges et ses glaces, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ça, nous avons aussi une tradition d'accueil, en fait, des autres cultures de l'altérité. C'est un pouvoir d'influence assez capital parce que la bataille est aussi culturelle. On le voit tous les jours. Et par rapport à ça, je dirais, il s'agit moins de désoccidentaliser le monde que de démondialiser le monde en permettant en fait à l'universalité des droits de se répandre, mais dans la reconnaissance de la différence des cultures.
La dignité de la différence. Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'avoir été avec nous pour nous présenter votre nouvel essai dont je conseille vivement la lecture à nos auditeurs. Occident ennemi mondial numéro 1, c'est publié aux éditions Albin Michel. À très bientôt sur Radio J.
Nadjar.
Radio J.
À suivre, comment le président turc Recep Tayyip Erdogan instrumentalise le dossier palestinien pour mieux asseoir ses ambitions au Moyen-Orient. Vous écouterez l'éclairage à ce sujet de la chercheuse Léa Landman. À tout de suite pour la deuxième partie de Géopolitique le Mag.
Géopolitique le Mag.
Steve Nadjar. Radio J.
Bonsoir Léa Landman.
Bonsoir Steve.
Et merci de nous rejoindre ce soir dans Géopolitique le Mag. Léa, vous nous parlez cette semaine de la Turquie, de ses relations notamment avec Israël.
Ouais, exactement. Donc on va commencer en septembre 2023. Une rencontre assez inédite a eu lieu entre Netanyahou et Erdogan, symbolisant une tentative en fait de détente après une décennie de relations super tendues entre Israël et la Turquie. Il s'était même dit, on va venir se voir, on va se visiter, on va faire des nouveaux trucs.
Après la crise née du Mavi Marmara.
Cependant, cette volonté de rapprochement s'est vite effritée lorsque la Turquie a clairement pris position après le 7 octobre. Soutien du Hamas complètement officiel, parlant de génocide. Ils appellent le Hamas la résistance. Et là, maintenant, Erdogan a décidé d'aider l'Afrique du Sud et de se rajouter à la plainte à la haie.
La Cour internationale de justice.
À la Cour internationale de justice. Début avril, un coup dur frappe les échanges commerciaux. La Turquie décide de restreindre l'exportation de 54 produits vers Israël, en particulier des biens de construction. Donc environ 29% des importations de produits en rapport avec le ciment l'année dernière provenaient de Turquie. C'est un gros truc, ça veut dire que la construction en Israël est vraiment dépendante en fait de ces produits-là. Pour Erdogan, c'est une première en 20 ans de pouvoir d'utiliser la carte de boycott commercial en fait comme outil diplomatique avec Israël. Parce que jusqu'à maintenant, malgré des relations très houleuses, le commerce, ça marchait très bien.
Alors qu'est-ce qui motive, Léa, cette nouvelle décision, cette nouvelle orientation du président turc ?
Alors, au fil des 10 dernières années, en fait, la politique étrangère turque a pris un virage assez radical. Erdogan avait pensé une politique étrangère qui s'appelait « zéro ennemi en frontière ». On est copains avec tout le monde. Okay ? Et il a basculé, en fait, vers une politique étrangère super agressive. Il s'implique dans tous les conflits majeurs du Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, Libye. Au Yémen, par exemple, il n'est pas impliqué directement, mais Erdogan permet des transferts de fonds des forces Al-Quds iraniennes vers son proxy, les Houthis. Il cherche aussi à étendre son influence en soutenant des mouvements à l'époque comme le printemps arabe, là, évidemment, où ça convient à son idéologie. Ce qui lui a valu quand même une grosse détérioration des relations avec plusieurs pays arabes, notamment l'Égypte. Il adopte également une politique très audacieuse, et ça, c'est pour pas dire encore une fois agressive, en Méditerranée orientale, malgré les tensions grandissantes avec l'Europe et l'OTAN. Donc, la Turquie se retrouve avec beaucoup trop d'ennemis, alors que c'était complètement l'inverse de sa politique originale. Mais on voit quand même, depuis 2-3 ans, Erdogan change de stratégie à nouveau. Il se rapproche de l'Égypte, baisse les flammes en Méditerranée orientale, a permis l'accès de la Suède dans l'OTAN en échange, évidemment, de F-16 américains, parce que rien n'est gratuit.
Qui avait été bloqué après des achats de systèmes de défense russes.
Exactement. Mais ça a l'air d'être débloqué pour l'instant. En tout cas, de se débloquer. C'est dans ce cadre qu'il faut aussi comprendre le rapprochement avec Israël avant le 7 octobre. Oui. Mais il faut vraiment pas se tromper sur les intérêts turcs. Erdogan s'est rapproché de l'Iran et du Qatar. Il réussit à soutenir l'Ukraine sans s'aliéner Moscou. Ça, c'est vraiment un gros tour de force quand même. Et plus que tout, Erdogan se voit comme en fait le porte-parole de la voix islamique au Moyen-Orient. Et c'est pas donné dans un Moyen-Orient arabe. C'était pas évident, cette position. La Turquie investit des dizaines de millions de dollars dans le soutien aux mosquées extrémistes, aux centres islamiques, aux imams partout en Europe, à travers des œuvres de charité, l'aide à des écoles, des programmes éducatifs des frères musulmans. Les Européens savent ça très bien, hein. Il y a un soutien également à la diaspora turque en Europe et aux partis extrémistes en Afrique du Nord. Il s'agit d'un problème, bon, je vais dire sérieux parce que on fait dans le politically correct aujourd'hui, mais c'est un vrai problème en Europe.
C'est une menace, vous voulez dire ?
Oui, c'est une vraie menace. Et particulièrement en Europe occidentale et au Moyen-Orient, où la Turquie s'immisce en fait dans les affaires internes à travers des projets d'islamisation, pareil qu'en Europe en fait, financés en partie par le Qatar. Si vous voulez, la Turquie, c'est un peu l'âme des frères musulmans, et le Qatar, c'est un peu la banque des frères musulmans. Mais la Turquie fait partie de l'OTAN, et pour l'Europe, elle joue un rôle primordial, économique et sécuritaire. Mais comme le rappelle un spécialiste israélien, outre le commerce, la Turquie est un passage stratégique pour les marchandises destinées à Israël. Donc, les navires qui transportent des céréales de Russie et d'Ukraine passent par la Turquie. Et le pétrole qui provient des pays du Caucase passe par les détroits du Bosphore et des Dardanelles, contrôlés par la Turquie, plus par des pipelines qui passent par la Turquie. Donc, Erdogan n'a rien fait pour l'instant, c'est pas le Hamas, c'est un pays établi, il n'a rien fait, mais c'est toujours une menace.
Il détient un levier de pression important.
Très important. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. En septembre 2023, merci. En septembre 2023, il y a un projet qui s'appelle le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe qui a été lancé. Ça, il s'agit d'un corridor logistique en fait conçu pour relier l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe grâce à des infrastructures ferroviaires, maritimes, pétrolières et de télécommunications à haut débit. C'est un trajet de plus de 4800 km qui commence sur les côtes indiennes, traverse la mer jusqu'aux Émirats arabes unis, puis continue par voie ferrée à travers l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël avant d'atteindre l'Europe par voie maritime. Et la Turquie n'est pas dans le deal. Ils ont contourné en fait la Turquie. Ce qui a conduit Erdogan à lancer un projet alternatif qu'il appelle, lui, la route du développement. Et cette initiative vise à établir une connexion ferroviaire et routière entre le Golfe Persique et l'Europe en passant par les ports des Émirats Arabes Unis qui, eux, sont dans les deux projets du Qatar et de l'Irak. Je ferme la parenthèse et en fait, ils ont été laissés hors du deal parce que l'Inde ne voulait pas, parce que la Turquie est proche du Pakistan. D'accord. Donc on voit quand même que la tentacule turque est bien installée à l'international.
Pour terminer, Léa, sur la question du dossier palestinien, quelle relation entretient la Turquie d'Erdogan avec notamment avec le Hamas ?
Bon, alors ça c'est la meilleure question que vous pouviez poser.
Elle arrive tardivement, mais
elle arrive. Tardivement, mais elle arrive. C'est parce que vraiment j'ai mis du temps à remettre dans le contexte. Bon, Erdogan c'est le soutien officiel du Hamas. Après le deal avec Chalit, en fait, c'est le seul pays sauf le Qatar qui accepte le leadership du Hamas en exil. Et le Hamas, il y a un bureau officiel d'où il exécute des attaques terroristes contre Israël. Depuis 2013 ou 2014, Erdogan a aussi promis au Hamas 250-300 millions de dollars annuels. Alors honnêtement, on ne sait pas vraiment s'il les a, il les a fournis ou pas, mais en tout cas, c'était une promesse officielle.
Et Ismaël Haniyeh se trouve actuellement en Turquie.
Et Ismaël Haniyeh se trouve en Turquie. Après, c'est intéressant parce que la réponse du Hamas au deal de la réponse d'hier, en fait, ils disent qu'il ne faut plus écouter personne, ni Haniyeh, ni Machal, ni personne. Sinoir a envoyé deux de ses proches qui font en fait le Caire, Doha et Ankara. Et c'est les seuls à...
C'est la branche militaire du Hamas qui a pris le dessus sur la branche politique.
Oui, et en fait, Haniyeh, on pensait que c'était un personnage quand il est parti en Turquie, mais peut-être qu'il n'a pas autant d'importance que ça. Il n'empêche que les rumeurs disent que le leadership du Hamas pourrait s'installer en fait en Turquie. C'est pas rien.
Toujours pression américaine sur le Qatar.
Exactement.
Pour terminer, Léa.
Dites-moi. Alors, c'est moi qui vais
vous
dire,
écoute.
En fait. Alors, cette évolution maintenant, c'est pourquoi. Même pendant cette décennie perdue, en fait, les liens économiques et commerciaux n'ont pas été affectés, on l'a dit. Alors, qu'est-ce qui change? Premièrement, une forte pression interne en Turquie pour boycotter Israël depuis le début de la guerre et un soutien actif aux Palestiniens. On demande en fait un vrai soutien aux Palestiniens. De plus, les récentes élections municipales ont marqué la pire défaite pour Erdogan et son parti, le Parti de la Justice et du Développement, depuis plus de 20 ans au pouvoir. C'est un gros truc aussi pour Erdogan. Deuxièmement, les Turcs ont été exclus des négociations avec le Hamas, même si les rumeurs circulent sur une demande américaine d'intervention turque, je ne sais pas si c'est vrai. Le pari d'Erdogan, en fait, d'un front avec l'Égypte et les Émirats contre Israël, a échoué. Erdogan voulait se retrouver au milieu du deal. Mais il a fait un mauvais pari. Lui, il s'est dit, en fait, je vais m'associer avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte contre Israël et je vais me retrouver au milieu du truc. Et se retrouver au milieu des négociations, c'est pas seulement redevenir le centre, en fait, une sorte de centre au Moyen-Orient, c'est aussi avoir la main sur les deals de reconstruction à Gaza.
C'est un acteur à la fois politique et économique à Gaza.
Exactement. Donc, il y a plein de raisons qui font que la Turquie change un peu son ton, très fortement son ton contre Israël. Et là, cette dernière histoire là d'Erdogan qui va soutenir l'Afrique du Sud, je pense que ça va rendre la fonction turque en fait encore plus compliquée parce qu'il faut que les Israéliens acceptent que la Turquie joue un rôle pivot dans ces négociations.
Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre intervention en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio J. Steve Nadjar.
On va retrouver dans quelques instants Arié Bensemoun, on dit même qu'il est déjà avec nous. Bonjour Arié.
Oui, bonjour.
Et merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Rafah ou un accord sur les otages, voilà finalement résumé Arié le dilemme auquel fait face le cabinet de guerre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, et quel dilemme Steve, parce que d'abord Rafah c'est indispensable pour terminer et gagner cette guerre, et les otages évidemment. Cette question qui est la plus lancinante de toutes, et je vous l'avais raconté, je pense que dans une de nos conversations du jeudi après-midi, il y a pire que la mort, il y a ce que vivent les familles des otages. Oui. Cette attente terrible qui les transforme finalement en sorte de zombies qui vivent entre deux mondes, celui des morts, celui des vivants, c'est absolument inacceptable. Donc oui, la pression terrible qui s'exerce aujourd'hui sur le cabinet de guerre, entre cette alternative, parce que c'en est une. Évidemment, si on va à Rafah, ça veut dire qu'on passe à côté de la question des otages. Et si on se préoccupe des otages, alors là, on fait le jeu du Hamas, qui a très bien compris qu'il tenait tout le monde par la gorge et qui va continuer à repousser toutes les offres qui lui sont formulées jour après jour, parce qu'il sait qu'il tient là quelque chose qui lui permet d'organiser sa survie à moyen et, pense-t-il, peut-être même à long terme.
Et ces deux options, Arié Bensemoun, présentent également des risques politiques pour Benjamin Netanyahou et certains membres de sa coalition le lui ont rappelé ces dernières heures.
Ben évidemment que les risques politiques sont là, mais ils sont là depuis avant le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, c'est pire que jamais. Je pense qu'il faut mettre de côté l'ensemble de ces problèmes-là, de ces risques politiques. Benjamin Netanyahou ne doit pas se préoccuper de sa coalition, ne doit pas se préoccuper de son avenir à la tête du gouvernement, mais doit se préoccuper uniquement de ce qui est important, de ce qui est bon pour Israël. Malheureusement, je dis que nous avons perdu beaucoup de temps, il y a eu trop d'atermoiements, on a laissé une trop grande place à la négociation orchestrée par le Qatar avec le Hamas, qui s'est imposé dans une partie dans laquelle il n'aurait jamais dû avoir sa place. Et là, on est dans une impasse maintenant, justement parce que des erreurs ont été commises, qui ont pris en compte trop souvent les intérêts politiques des uns ou des autres. Ce pays a besoin aujourd'hui d'unité nationale. Il a besoin que cette unité nationale ne soit pas que dans les mots, elle soit dans la réalité de la gouvernance. Mais c'est des situations qui sont très compliquées et aujourd'hui on arrive à un point de non-retour d'une certaine manière. C'est un peu l'heure de vérité. Il faut finir cette guerre et il faut libérer les derniers otages dont on ne sait pas malheureusement encore combien sont toujours en vie. Et à cette question cruciale, il faut être capable de répondre, mais pas dans 6 mois, mais tout de suite. Et ça n'est pas simple, puisque Benjamin Netanyahou a dit lui-même, avec ou sans négociation, nous irons de toutes les façons à Rafah. Ça veut tout dire en termes de détermination, mais ça veut rien dire non plus, parce que c'est envoyer un ballon en termes de communication pour voir comment vont réagir les différents acteurs de cette situation, et puis en fonction de ça, prendre une décision. Or, ce qu'il faudrait faire, je pense, compte tenu de ce que nous savons, des enjeux stratégiques,
et pour conclure,
parler moins et agir plus. Parler moins, agir plus. On fait trop de communication autour de ces sujets-là. Et ce faisant, on fait la part belle au Hamas, qui comprend bien qu'il a toutes les cartes entre les mains.
Et qui profite d'ailleurs de cette pression publique. Merci beaucoup, Arié Bensemoun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Bon après-midi à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Radio J.
Voilà, c'est la fin de Géopolitique, le MAG. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radioj.fr et sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Vous pouvez également la retrouver en vidéo sur nos chaînes YouTube et Facebook. Excellente fin de semaine, à jeudi prochain pour un nouveau numéro de Géopolitique, le MAG.
Géopolitique, le MAG.
Steve Nadjar.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה, רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום נכתב, עכשיו היא אמא מסופקת ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצפת אותו בנצח. אני מכיר אותך מדם לא מאתמול, הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. בשבילו את מתאמנת מרוכזת, מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים, כי את ליצן, את בולעת אש נועזת, אישה מגומי שנולדה לקרקסים, לוקחים את כל הטריקים שימצא, ואין שום רשת שתציל מי שמעז. גם את יודעת מה מחיר הפירואט שאת עושה שם, את עושה שם, שם למעלה חפשי את אלוהים כל סוף שבוע, תתרפקי על קיר מאבס ששומר דקים, בסך הכל את ילד שנשאר פגוע, נרגעת רק כשהאורות סביבך דולקים. חצפת אותו בנצח, אני מכיר אותך מדם נשאר פה, לא החלפתי כתובת. והחיים שלי ראי סדוק ומאושר. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן על הגשר הישן.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
תמיד לאן שלא נסעתי, במסלולי אהבות, הייתי טיפ. עם משקפי השמש באתי, מסתיר את הסודות, מסתיר אותי. את מי את אוהבת? את מי את אוהבת? בתחנת הרכבות שאלתי, האם את יכולה כבר לקבל אותי? מכל השיגונות נגמלתי. בדיוק יצא רכבת ואדמה רעדה, קצת משונה שלא נשארת, קצת משונה שלא נשאר. מול השיגעון רק אהבה, זאת התשובה היחידה לשיגעון. תחת משקפי השמש היום מחשיך לאט לפני זמנו. רק את מי את אוהבת, או את מי את אוהבת? בשדה התעופה שאלתי, לקח לי זמן לישון, לקח לך זמן לענות, חיכיתי לתשובה שלך, כי בדיוק עם רימטוס ואדמה רעדה, קצת משונה שלא נשארת, קצת משונה שלא נשארת. את מי את אוהבת? את מי את אוהבת? בלילה במיטה לחשתי, הרי את יכולה כבר לקבל אותי, מכל השאלות נחלשתי, בדיוק דפק הלב ואדמה רעדה, קצת משונה שלא נשארת, קצת משונה שלא נשארת. תוציאו טלפונים, אני אחכה לכם,
אבל גם אלה שקנו את הכרטיסים היקרים בשורות הראשונות, אלה שהמכונית מחכה להם ליד הבמה, את מי את אוהבת? את מי את אוהבת? בלילה במיטה לחשתי, הרי את יכולה כבר לקבל אותי, מכל השאלות נחלשתי, בדיוק דפק הלב ואדמה רדה, קצת משונה שלא נשאר, קצת משונה שלא נשאר.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
אין לי ארץ אחרת עד שתחר.